Alors, nous voilà de retour pour les amateurs de sport week-end. Et sans plus tarder, on va rejoindre Maxime Lapierre. Salut, Max!
Salut, Jérémy!
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ouais. As-tu hâte de revoir le Canadien sur patin ce soir? T'es-tu ennuyé un petit peu?
Ben oui, c'est sûr. Avec une grosse victoire la dernière fois contre les Leafs, je pense que c'est arrivé au mauvais moment parce qu'on avait le goût de voir d'autres matchs, mais là, ça va être, on va avoir besoin d'une grosse performance ce soir.
Ben ça, c'est certain. Puis même dans le dernier match, écoute, disons que Carey a connu un bon match et c'est vraiment la troisième période qui a fait toute la différence. Mais Max, ceux qui ont pris aussi une petite pause de hockey, étant donné que le Canadien jouait pas, puis pendant une semaine, peut-être qu'ils ont fait un peu plus de Netflix ou je sais pas trop quoi, là, ils se réveillent ce matin puis ils disent « Bon, ça recommence, OK. » Là, ils regardent le classement puis là, ils disent « Oh, tabarouette, OK, les Maple Leafs ont 28 points et le Canadien a 8 points de retard sur les Leafs. C'est sûr que le Canadien a des matchs en main. En plus, le tricolore a glissé pendant ce temps-là au quatrième rang. Écoute, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Le Canadien a des matchs en main, puis ils vont rattraper des rangs. Mais est-ce que les Maple Leafs, selon toi, tu sais, tranquillement, pas vite, commencent à se détacher du peloton, puis il va falloir les oublier, ou est-ce qu'il est encore tôt?
Oui, puis qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, c'est que la façon dont ils se comportent sur la patinoire, les Leafs, tu sais, si c'était des victoires, que c'était des coups de chance, puis c'est à cause qu'on compte des buts, puis que l'autre équipe ne performe pas, là, je dirais on va les rattraper, mais là, Austin Matthews, la façon qu'il se comporte sur la patinoire,
ouais, Mitch
Marner, tu sais, là, est-ce qu'on a finalement compris qu'il y a deux il y a deux côtés sur une patinoire, parce que ça paraît dans la façon qu'ils jouent les Leafs, puis là, tu regardes un Thornton qui arrive, il a l'air en grande forme, puis là, il complète bien le trio. Je pense que on a compris aussi en défensive comment ça fonctionne. On a un gars comme, tu sais, Hall, là, qu'on connaissait pas, qui arrive en défensive. C'est un gros défenseur. Il fait le travail. C'est peut-être le style de défenseur qu'on recherchait justement à Toronto, des gars qui jouent de la bonne façon. Puis on s'entend que le match de ce soir est assez important si on veut pas avoir un trop gros gap entre Montréal-Toronto au classement.
Ouais, parce que là, tu te retrouverais à 10 points d'écart, puis t'as beau avoir des matchs en main, mais ces matchs-là, il faut que tu les gagnes aussi. Tu parlais d'Austin Matthews. Écoute, là, c'est 16 buts en 17 matchs. Il en a marqué 10 juste au mois de février, puis soit dit en passant, on est juste le 20 février. Il y a encore du temps à ce niveau-là. Donc, les Maple Leafs sont vraiment tout feu, tout flamme. Maintenant, il serait intéressant de voir. Bon, on va parler à Martin McGuire tout à l'heure, là, vers 13h, mais je pense qu'on va retrouver dans la formation, un gars comme Tomáš Tatar qui avait été laissé de côté, probablement Byron qui est passé au ballottage, va sûrement lui aussi faire partie de la formation. Je me pose la question, tu sais, les gars du Canadien vont-tu se sentir fouettés et vouloir en donner plus pour pas se retrouver dans les estrades où il y en a-tu qui vont jouer sur les talents avec leur nervosité en se disant « Tabarouette, ils sont capables de mettre Tatar dans les estrades puis Byron au ballottage, je suis mieux de pas rater ma shot parce que tu sais moi aussi je peux me retrouver dans une situation difficile. »
Exactement, puis je pense qu'on va le faire encore. Ce qu'on a vu avec Tomáš Tatar, on va le voir avec d'autres vétérans. Je pense que le message est clair en cette saison écourtée, il faut le dire. Peut-être qu'un gars comme Tatar aurait été dans l'alignement si c'était une saison de 82 matchs. C'est juste que cette année, on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas le temps de régler les problèmes. Faut gagner les parties, on n'a pas le doigt à l'erreur. T'sais, c'est juste 56 matchs, faut s'entendre. Donc quand un gars ne performe pas comme tu le veux en tant qu'entraîneur, ben comme je l'ai dit là, avant la saison, t'as pas le temps de parler de sentiments, puis de dire on va t'attendre, puis tout ça, une petite tape dans le dos. C'est pas ça cette année, c'est vraiment les statistiques au classement qui comptent. Puis Tomáš Tatar, ben c'est à lui de trouver un moyen de performer. Tu sais, c'est pas juste, on l'a vu un petit peu avec les Flyers de Philadelphie. On a Alain Vigneault qui avait mis Konechny dans les estrades, même s'il était le deuxième compteur de l'équipe, parce que tu peux plus juste te fier sur l'attaque, tu peux plus juste te fier sur les performances en avantage numérique. Ça prend du bon hockey dans les deux sens de la patinoire, comme les Leafs le font en ce moment, puis c'est pour ça qu'ils performent. Donc, c'était Tomáš Tatar d'arriver affamé ce soir, de jouer physique sans donner des grosses mises en échec, parce que c'est pas le plus gros joueur dans l'alignement, mais d'avoir un bâton pesant dans les bagarres un contre un, de gagner ses bagarres un contre un, puis de contrôler la rondelle, de faire ce qu'il fait normalement, mais de l'autre côté aussi.
Bon, en tout cas, écoute, c'est un premier passage à vide depuis un bon bout de temps pour Tatar, parce qu'il a toujours trouvé la façon de contribuer. Cette semaine, j'écoutais Jonathan Drouin qui disait justement exactement ce que tu viens de dire, c'est que faut que tu te présentes pour jouer à tous les soirs parce qu'il y a trop de profondeur dans l'alignement, puis ça prendra pas de temps, tu vas perdre ta place. Le Canadien joue deux matchs en deux soirs ce week-end, mais après ça, sur les 9 matchs qui suivent, on va jouer souvent, mais il n'y aura pas de deux matchs en deux soirs. Ça va toujours être aux deux soirs à approximativement. Est-ce que tu t'attends à une gestion différente de la part des pour ce qui est des gardiens de but? Est-ce que Carey va en jouer un petit peu plus maintenant à cause de ça? Ou est-ce que, selon toi, ça va continuer d'être pas mal éparpillé équitablement?
Ben, ça va vraiment dépendre, je pense, des performances. Moi, je crois sincèrement qu'on a un plan préétabli depuis le début de la saison pour quand qu'on va voir Carey Price et Jake Allen. C'est sûr que le but premier d'aller chercher Allen, c'était de reposer Price pour les séries. On s'entend, il a joué beaucoup de hockey dans les dernières années. Donc, alors, oui, on va le voir plus souvent parce que je pense aussi qu'il doit retrouver son rythme de croisière. Là, Carey doit être dans le filet, il doit retrouver ses points de repère. Puis justement, on a commencé à le voir au dernier match en troisième période. Gros arrêt sur Tavares qui mène à une chance de marquer du Canadien et un but. Donc, c'est ce qu'on veut voir de sa part. Puis, avec la semaine d'entraînement qu'il vient d'avoir, je pense que, tu sais, les gardiens de but cette année n'ont pas eu un gros camp d'entraînement. Tu sais, c'était une semaine, pas beaucoup de lancers, pas beaucoup de matchs. Donc, théoriquement, ce qu'on a joué jusqu'à maintenant, c'était les matchs hors concours pour Carey Price, parce qu'on s'entend, il a joué théoriquement juste la moitié. Donc là, c'est la vraie saison qui commence. Il a travaillé avec son entraîneur de gardien cette semaine. Puis, je m'attends à le voir dans le filet pas mal plus souvent.
OK, donc mettons sur 10 matchs, tu le vois quoi? 7 peut-être? 6, 7 games?
Ouais, ça va être un 6-7 minimum, ça c'est, okay. C'est sûr et certain.
Bon, regardons un peu ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, puisque ce soir, Sidney Crosby va jouer son 1000e match en carrière. Puis les gens vont dire, ben oui, c'est un joueur étoile de la Ligue. Mais il y a eu une période à un moment donné, Max, où il a beaucoup souffert de commotion cérébrale, notamment, je pense qu'il y a 3 saisons consécutives où il n'a pas joué 50 matchs. Et d'arriver justement à ce plateau-là de 1000 matchs, puis il va en jouer probablement encore beaucoup plus. Mais ça signifie quoi pour un joueur de même?
Ben, ça représente bien ce qu'il est comme individu. C'est un gars qui a une éthique de travail. Il n'y a pas personne qui a une éthique de travail comme lui, Jérémy, je te le dis. J'ai joué avec. Ouais. Et tout ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est une passion pour lui, le hockey. C'est une obsession. Il fait juste ça dans sa vie. Mm-hmm. Puis, je pense pas que tu reviens de la blessure qu'il a eue, de la façon qu'il l'a fait si t'es pas Sidney Crosby. Parce que ça prend beaucoup de sacrifices. Je pense que il a été presque une année complète sans jouer au hockey. Donc, puis il revient puis il performe à haut niveau. C'est un gars qui s'est mérité le match, c'est un bon leader. C'est un gars qui représente bien la Ligue nationale de hockey. Puis je pense qu'il va continuer pendant plusieurs années à performer. Peut-être pas comme on l'a vu à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, mais je pense qu'il va être capable de très bien jouer encore longtemps, juste à cause que son coup de patin est naturel. C'est un gars fort physiquement, puis il va toujours être capable de se trouver un rôle, même si en fin de carrière, peut-être, ben, ça sera un rôle plus effacé.
Bon, du côté des Blue Jackets de Columbus, je sais pas si tu as suivi un petit peu cette semaine ce qui s'est passé avec Max Domi, mais on l'a rétrogradé sur le 4e trio. Il a quand même marqué un but dans ce match-là, mais John Tortorella avait qualifié son jeu de, entre guillemets, « a concern ». Donc, il était comme inquiet de son jeu. Domi, déjà l'année passée, ça avait pas été sa meilleure année, une petite saison en pente descendante. Là, de voir qu'il se joint à une nouvelle équipe, ils ont besoin de lui parce que tu t'échanges Anderson, tu as besoin d'un gars capable de performer offensivement parlant. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ce gars-là, on a déjà vu le meilleur de lui ou quoi?
Ben, je pense que oui, mais ce qui m'inquiète dans son cas, c'est qu'il semble pas comprendre que premièrement, c'est l'entraîneur qui décide du système de jeu.
Ça, c'est sûr.
Il doit jouer avec le système de jeu. C'est aussi simple que ça. Il a tous les atouts, hein. C'est un bon joueur de hockey, bonne vision, très talentueux. Mais si le coach te dit de te positionner d'une certaine façon, tu dois le faire. Tu peux pas juste jouer, être sur ta propre page. C'est un sport d'équipe. C'est à lui de comprendre. Souvent, on le sait, tu t'en rappelles, à Montréal, on voyait des petits moments où il y avait des manques de discipline. Il prend une punition, il pense à lui-même. Tu sais, c'est sans être un mauvais gars, je pense que quand il commence un match de hockey, lui, il pense à ses performances, puis à qu'est-ce qu'il peut faire côté statistique. Puis ça doit changer. Des fois, c'est mieux de faire moins de points, puis d'être très bien structuré, puis l'entraîneur te donne plus de temps de glace avec des meilleurs joueurs, puis là, tu vas aller les chercher tes statistiques à un moment donné, justement à cause de la confiance.
Oui, parce que Domi, il lui reste une année de contrat, puis après ça, ben, il va falloir qu'il renégocie. Donc après cette année, il reste seulement une année. Il faut absolument parler de ce qui va se passer à Lake Tahoe ce week-end, Max, parce que je suis vraiment excité pour ça. Les matchs extérieurs, je trouve ça le fun, ben, quand le Canadien est impliqué, aussi le match du 1er janvier que j'ai l'habitude de regarder. Les autres, bon, peut-être un petit peu moins, mais là, avec ce qu'on va avoir aujourd'hui à 15h entre les Golden Knights et l'Avalanche, et aussi demain à 14h entre les Flyers et les Bruins qui vont traverser le continent, soit dit en passant, pour aller jouer ces matchs-là. Mais quelle idée extraordinaire de jouer dehors, mais de jouer pour vrai dehors, là, dans le bois, sur le bord du lac. Ça va faire des images extraordinaires cette fin de semaine.
Ah, c'est-tu beau, oui. Puis comme tu viens de le dire, les images, ça n'aura pas de bon sens. Mais tu sais, imagine-toi les joueurs. Là, tu reviens en enfance, théoriquement. Tu t'en vas jouer au parc avec oui. tes patins. Il fait froid, il n'y a pas de spectateurs. Ça va être un beau match de hockey. Les uniformes sont merveilleux. Oui. C'est super le fun comment on a organisé tout ça. Il manque juste le chocolat chaud, je pense, sur le banc. on a un vrai match de hockey mineur. Mais je trouve que c'est une belle chose que la Ligue nationale de hockey a planifié. Puis ça va être, j'espère qu'on va avoir un très bon match parce que c'est deux très bonnes équipes en plus de tout ça. Donc, wow, quel beau moment.
Oui, absolument. Puis vous allez voir, là, il y a des arbres autour de la glace. Là, donc, c'est vraiment pittoresque comme image. Puis comme tu viens de le mentionner, il n'y aura pas de spectateurs. Donc, les caméras d'un côté. Peut-être que ça va être quelque chose qu'on va garder pour les années futures où on va peut-être mettre des estrades juste sur un côté puis garder ces images-là de l'autre bord. Mais tu as parlé des uniformes. Qu'est-ce que tu as pensé du nouveau chandail de l'Avalanche / Nordique de Québec? Moi, j'ai trouvé ça, je trouve... vraiment, vraiment bien. L'ancien jersey des Nordiques, mais avec les couleurs rouge-vin de l'Avalanche, on dit que les jeunes dévorent ce chandail. C'est un des chandails les plus vendus présentement dans la Ligue nationale. Encore là, un autre coup de chapeau marketing, je trouve. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses.
Ben oui, c'est sûr, c'est super beau. Puis tu sais, je trouve que c'est un beau clin d'œil à la ville de Québec, les Nordiques et tout ça. Donc, en plus, c'est dans un match très spécial, comme tu viens de le mentionner, dans un décor incroyable. Pourquoi pas un beau logo comme celui des Nordiques de Québec. Puis je trouve qu'on a vraiment fait une belle job de ce côté-là. Puis celui des Golden Knights aussi, je le trouve très spécial. J'aimerais pas ça le voir à tous les matchs, mettons là, mais pour aujourd'hui, c'est bien correct.
Bon, parfait. Écoute, je te pose une dernière question parce qu'on en a beaucoup parlé au 98.5 cette semaine, là, notamment avec cette entrevue que Mario Langlois a fait avec Pat Brisson cette semaine concernant le repêchage. Mais plusieurs s'entendent pour dire qu'on devrait profiter de cette fenêtre là dans cette année et l'année prochaine où les repêchages vont être un petit peu bousculés pour tout de suite tomber dans un mode de repêchage où ça va commencer à 19 ans au lieu de 18 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je pense que tu peux faire des belles découvertes si tu fais ça, parce qu'il y a des joueurs qui se développent sur le tard dans le junior. Ouais. Tu sais, ça change rapidement à cet âge-là. 16, 17, 18 ans, t'es pas la même personne du tout. Moi, je me rappelle, là, à 16 ans, là, j'étais pas un gros joueur de hockey très fort physiquement, puis 6 mois après, là, je suis arrivé au camp d'entraînement à 17 ans, j'avais complètement changé. J'avais gagné 3-4 pouces en grandeur, 20 livres. Tu sais, j'étais plus le même joueur. Donc, est-ce que ça serait bon pour les jeunes? Je pense, tu sais, ça change rien pour le jeune lui-même. Là, je pense que les gars sont quand même à 18 ans, sont capables de jouer avec National de hockey. Mais ça change quelque chose pour les organisations. Je trouve qu'ils vont faire des découvertes. Ils vont voir un joueur qu'ils n'avaient pas vu l'année d'avant, puis ils vont dire, waouh, c'est vraiment impressionné. Il a vraiment changé sa game, ce joueur-là. Pourquoi pas le repêcher? Par contre, si on fait ça, moi je rajouterais une coupe de ronde justement parce qu'il va y avoir plus de joueurs à repêcher.
Ouais, ok. Intéressant, intéressant. Max, je te souhaite un bon après-midi et une bonne game ce soir. Bon, on s'en reparle sous peu.
Parfait, salut, bonne journée.
Merci beaucoup. Maxime Lapierre, co-animateur de La Poche Bleue, que vous allez pouvoir entendre un peu plus tard aussi cet après-midi ici, une portion de l'émission de cette semaine. On fait une petite pause, on revient avec Alex Agostino qui va commencer à nous mettre la table pour cette saison 2021 du baseball majeur, parce que oui, les lanceurs et les receveurs ont déjà commencé à se rapporter au camp d'entraînement.